Sirius Audio, vous allez voir ce que vous allez entendre.
La laïcité. Une respiration qui permet l'alternance entre son milieu et l'espace public. Entretien avec Catherine Kinsler, ancienne professeure de philosophie à l'Université de Lille 3, spécialiste de la laïcité. Propos recueillis par Anne Monnier. Le mot laïcité est très à la mode et on l'associe fréquemment au refus de la religion ou plus radicalement à l'athéisme. La laïcité est un mode d'organisation de l'association politique et une conception de la cité. Elle organise la coexistence des libertés et disjoint l'association politique de toute référence transcendante. On peut être musulman, catholique, athée, etc., et laïque en même temps. Il ne s'agit pas de tenir compte des différentes communautés dans une société donnée, mais de rendre a priori possible la liberté d'opinion de chacun. La formule consiste à soumettre à des principes différents l'autorité publique d'une part et la société civile de l'autre. L'autorité publique s'aveugle aux croyances et incroyances. Elle ne reconnaît ni ne cautionne aucune religion et pas davantage l'athéisme. C'est un minimalisme. On s'y abstient de toute manifestation, caution ou reconnaissance en matière de culte, de croyance et d'incroyance. Dans la société civile, en revanche, chacun jouit de la liberté d'opinion et d'affichage dans le cadre du droit commun, sans avoir besoin pour cela d'entrer dans une logique identitaire. Chacun vit cette distinction concrètement. Par exemple, l'élève qui ôte ses signes religieux en entrant à l'école publique et qui les remet en sortant, fait l'expérience de la respiration laïque. Il échappe par cette dualité aussi bien à la pression sociale de son milieu qu'à une uniformisation officielle d'État.
Ça fait du bien, non ? Normal. Vous êtes sur Sirius Audio.
C'est cette alternance, savoir quand on doit s'abstenir, savoir quand la liberté la plus large s'exerce, qui constitue la respiration laïque, un peu comme une partition musicale. La laïcité offre un double espace, aucun des espaces ne s'imposant constamment et uniformément. En outre, la laïcité ne se réduit pas à la séparation entre les églises et l'État, condition nécessaire, mais pas suffisante pour qu'un État soit laïque. Elle suppose que l'association politique ne doive rien à des liens qui lui préexisteraient, qu'ils soient religieux, ethniques, culturels, etc. La laïcité est parfois présentée à tort comme une position anti-religieuse. Ce qui est contraire à la laïcité, ce ne sont pas les religions. C'est leur prétention à faire la loi, à s'imposer comme règle civile. C'est aussi la prétention à faire du lien religieux le modèle du lien politique. Donc ce qui est diamétralement opposé à la laïcité, c'est une religion civile. Faire de la foi une loi civile ou, symétriquement, faire de la loi civile un article de foi. Une position anti-religieuse ultra consiste à vouloir étendre à la société civile l'abstention qui doit régner dans la sphère de l'autorité publique, ce qui revient à borner l'expression des opinions à l'intimité. Mais cela est en totale contradiction avec la laïcité, dont la finalité est précisément de rendre possible la liberté d'opinion. Ajoutons aussi que la laïcité ne protège pas seulement l'autorité publique de la mainmise religieuse ou d'un athéisme d'État, elle protège aussi les religions les unes des autres.
Retrouvez tous nos podcasts sur notre site sirius.audio.
Faut-il voir dans la laïcité l'indice que la religion est potentiellement violente par essence, qu'elle est un instrument de pouvoir politique dont il faudrait se protéger pour tenter de vivre démocratiquement? Ce à quoi la laïcité s'oppose, comme je l'ai dit, c'est à la partie politique des religions, c'est à leur prétention à régler la vie et les mœurs de chacun, sans distinction entre l'espace politique et l'espace ordinaire. Lorsqu'une religion impose son moment politique, il n'y a plus de respiration. On est constamment sommé de se plier à la règle religieuse. La violence des religions tient à ce volet politique de leur doctrine, au moment où elles s'étendent à l'intégralité de la vie. C'est le sens même de l'intégrisme. Or, chacun doit pouvoir adhérer à une communauté. Mais chacun doit également pouvoir se soustraire à toute communauté sans crainte de pression ou de représailles. Chacun doit même pouvoir exister pleinement sans être nécessairement rattaché à une communauté. En régime laïque, il n'y a pas de supposition d'appartenance.
L'éléphant est Sirius Audio, vous allez voir ce que vous allez entendre.
Y a-t-il une spécificité de la laïcité à la française par rapport aux autres pays dits laïques? La séparation des églises et de l'État, si elle est constitutive de la laïcité, ne l'épuise pas et ne la spécifie pas complètement. Beaucoup de régimes de tolérance à l'anglo-saxonne ne la pratiquent pas. D'autres l'observent sans pour autant être laïques, comme les États-Unis d'Amérique. Car même dans le cadre d'une séparation juridique Église-État, un discours religieux peut être tenu par les représentants de la puissance publique. L'invocation publique à Dieu, les serments prêtés sur un livre sacré, les séances de prière publique sont non seulement licites, mais requis. Il en résulte que le moment religieux est cautionné et que le statut moral des non-croyants est déprécié. Un régime laïque disjoint plus profondément le lien politique du lien religieux. Le statut juridique, politique et moral des non-croyants, de tous ceux qui ne se rattachent à aucune attitude religieuse, est donc un critère pour apprécier la laïcité. De même que les droits des femmes sont un critère pour apprécier l'état du droit des individus dans une association politique. On entend parler parfois de la Turquie comme d'un pays laïque. Or, la législation turque organise le contrôle d'un courant majoritaire de l'islam par l'État. Il existe un service des affaires religieuses qui finance ce courant. Le Mexique est plus proche d'un régime laïque, mais la loi contrôle de très près les associations cultuelles. Et il ne faut pas oublier que la République française n'est pas elle-même complètement laïque, puisqu'en Alsace-Moselle existe un droit local qui reconnaît officiellement et salarie sur les deniers publics plusieurs religions et où une législation sur le blasphème n'est toujours pas abolie.
Mais monsieur et madame, je sais tout, écoute Sirius Audio. Sirius Audio ?
Cette laïcité à la française est-elle en danger aujourd'hui ? Les revendications identitaires sont-elles plus fortes qu'avant ? Il me semble évident que la laïcité est menacée par les visées de grandes religions hégémoniques. Elles sont toujours prêtes à grignoter le pouvoir civil, on l'a vu notamment lors de l'adoption de la loi sur le mariage étendue aux personnes de même sexe. Il se trouve de plus qu'une fraction violente et rétrograde d'un courant politico-religieux, qu'on peut nommer islamofascisme comme le fait le philosophe tunisien Mezri Haddad dans un article paru le 11 janvier 2015 dans Figaro Vox, se montre particulièrement offensive jusqu'à mener des actes de guerre contre ceux qu'elle appelle infidèles et mécréants. Dans ce contexte, tous, croyants et non-croyants, nous avons plus que jamais besoin de la laïcité, non pas pour vivre ensemble dans une fusion de bons sentiments, mais pour faire vivre la liberté qui nous réunit fraternellement en association politique. À mon avis, ce qui menace parallèlement la laïcité, c'est la perméabilité d'une partie du personnel politique et intellectuel à la normalisation par le religieux à laquelle il faudrait s'adapter. C'est sa réticence, pour ne pas dire plus, à promouvoir le modèle politique laïque et avec lui le minimalisme républicain. C'est son zèle à courber l'échine devant la culpabilisation, devant l'insolence du république bashing, qui convertit la haine du colonialisme en haine de la République, qui confond universalisme et uniformisation.
Le savoir par l'éléphant s'écoute sur Sirius Audio.
Quelles conséquences sociales pourrait avoir le renoncement à l'idéal laïque ? Je distinguerai le renoncement au régime laïque et le renoncement à l'idéal laïque. Le renoncement au régime laïque serait un changement de régime politique, soit qu'on bascule dans un régime de reconnaissance officielle des religions, soit qu'on régresse totalement dans un régime religieux hégémonique. Les deux possibilités ne sont pas exclusives l'une de l'autre, car la première peut préluder à la seconde. Ce renoncement est déjà bien engagé. Nombreux sont les décideurs qui souscrivent à l'idée d'une officialisation des religions, ou plus insidieusement, à l'idée que le modèle religieux inspire fondamentalement le lien politique. Les tentatives de toilettage de la loi de 1905 refont surface périodiquement, obstinément. Quant à l'idéal laïque, il n'est heureusement pas porté exclusivement par le personnel politique et les décideurs, et il ne l'a jamais été. Ce sont les citoyens qui le portent, qui le soutiennent, qui proclament leur attachement à cet idéal, citoyens qui, par ailleurs, peuvent pratiquer de façon fervente une religion. Ce n'est pas la modération religieuse qui fait la laïcité, c'est la coupure entre le moment religieux et le moment politique, et c'est la respiration formée par cette coupure. Le régime laïque n'aurait pas pu s'installer sans un soutien populaire, sans une réflexion et un soutien militant. Si ce soutien disparaît, la laïcité, même si elle reste inscrite dans la loi, devient une coquille vide.
Bravo ! Vous êtes sur Sirius Audio.
L'école n'a-t-elle pas une place particulière, voire prépondérante, dans la mise en œuvre de la laïcité ? Est-elle un lieu particulier où la laïcité doit s'exercer plus qu'ailleurs, d'une manière encore plus exigeante ? Je ne parlerai que de l'école publique, seule concernée par la question de la laïcité en son sein. La laïcité scolaire est liée à une conception de l'école qui est aujourd'hui fortement attaquée, y compris par la puissance publique elle-même, alors qu'elle devrait la préserver. À la suite du travail de la commission Stasi, la loi de 2004 interdit aux élèves d'arborer des signes religieux ostensibles. On leur demande, durant le temps scolaire, une discrétion qu'ils n'observent pas dans l'espace civil ordinaire. Cela signifie que l'école, vue du côté des élèves, n'est pas un lieu ordinaire assimilable à une portion de la société civile où peuvent s'afficher les opinions en tant que telles. Or, c'est cette conception de l'école qui est, depuis une bonne trentaine d'années, remise en question par une politique voulant faire de l'école un lieu de vie. Une politique qui, au lieu de dépayser les élèves, de les élever, ne cesse de les renvoyer à leurs conditions sociales. Même si des mesures laïques y sont prises, elles apparaissent alors comme un prêchi-prêcha car elles n'ont plus de lien substantiel avec la mission première de l'école qui est d'instruire. Cette école réglée sur son extériorité a quelque chose d'anti-laïque parce qu'elle introduit un regard a priori discriminant sur les élèves au prétexte de se soucier de leur origine, de leurs conditions et parce qu'elle ne fait pas de l'instruction son objet principal.
L'éléphant et Sirius Audio.
L'école publique, primaire et secondaire, si elle est laïque et vraiment libératrice, doit pouvoir se soustraire à l'espace civil ordinaire parce qu'elle fait partie des dispositifs constitutifs de la liberté, parce qu'elle accueille des libertés en voie de constitution et qu'elle leur fait faire la plus haute expérience de la liberté, la rencontre avec les objets libres des savoirs. On ne vient pas à l'école pour consommer un service, on y vient pour construire sa propre liberté. Et pour cela, on a besoin d'un espace critique commun, d'un moment de détour, de retrait et de doute. Voilà pourquoi les élèves ne sont pas des usagers. Ce n'est pas en faisant défiler les différentes positions devant les élèves qu'on arrive à construire quoi que ce soit, ni en leur disant « il y a différentes communautés et chaque communauté fait ce qu'elle veut, c'est toujours respectable ». Parce qu'alors chacun reste campé sur son appartenance, à supposer qu'il en ait une. Or, il faut passer par une mise à distance de ce que l'on croit penser, de ce que l'on croit être. C'est un moment où l'on fait un pas au-delà de la simple tolérance, en dehors de son appartenance, un moment où le doute est non seulement permis, mais requis. Et cela passe aussi par un acte visible, une sorte de rite, qui rappelle concrètement cette nécessité. En passant le seuil de l'école, on devient un peu un autre. Un enfant devient un élève. Il vit une double vie. Cela ne signifie pas qu'on doit rompre avec son appartenance, avec sa communauté, mais qu'il y a un moment où on n'a affaire qu'à sa propre pensée.
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.